Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Boroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à 100 grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité en ce mardi 19 juillet 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information, suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran annonce que la question syrienne sera au centre du sommet trilatéral de Téhéran. Un drone de l'armée turque a frappé lundi le quartier général conjoint de l'armée syrienne et des FTS à Tal Rifat et Al-Sharpa dans le nord de la Syrie. Et l'Algérie et l'Italie conviennent de renforcer leur coopération énergétique. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Les questions entourant la Syrie seront à l'ordre du jour du sommet trilatéral de Téhéran qui aura lieu mardi 19 juillet à Téhéran, a déclaré lundi le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian. Nous essaierons de stabiliser l'objectif important du processus d'Astana qui était de réduire les tensions dans les zones de conflit en Syrie, a précisé M. Amir Abdollahian avant une réunion imminente des présidents iraniens, turcs et russes dans la capitale iranienne, Téhéran. Lors de mon récent voyage à Ankara et à Damas, j'ai transmis le message du président iranien selon lequel la crise sécuritaire entre la Turquie et la Syrie peut être gérée, a poursuivi le chef de la diplomatie iranienne. La Turquie parle de la possibilité d'une coopération militaire jusqu'à 30 km à l'intérieur des frontières syriennes et nous avons essayé de résoudre politiquement cette crise et les préoccupations de sécurité de la Turquie, a-t-il encore ajouté. En outre, le retour des réfugiés syriens dans leur foyer et l'aide à la paix, à la stabilité et à la sécurité en Syrie font partie des sujets qui seront abordés lors de la réunion, a précisé le ministre iranien des Affaires étrangères. Le sommet de Téhéran réunira le président russe Vladimir Poutine, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président iranien Ebrahim Raisi en tant que dirigeant des pays garants du processus d'Astana, initié en 2017 pour la paix en Syrie. Un drone de l'armée turque a frappé lundi 18 juillet le quartier général conjoint de l'armée syrienne et des milices kurdes et d'autres positions à Tal Rifat et à Al-Sharpa dans le nord de la Syrie. L'attaque n'a pas fait de victimes humaines et n'a causé que des dégâts matériels. La frappe turque s'est produite alors que les coopérations militaires entre l'armée syrienne et les milices kurdes se sont intensifiées la semaine dernière, notamment par l'envoi de 300 soldats de l'armée syrienne ainsi que 6 chars et un hélicoptère vers la ville de Manbij. D'ailleurs, l'agence de presse officielle syrienne Sana a rapporté lundi que les unités de l'armée syrienne avaient renforcé leur position dans les deux villes d'Ain Issa, au nord de la province de Raqqa, et d'Ain al-Arab, Kobani, au nord de la province d'Alep, les deux villes surplombant la frontière avec la Turquie. Plus tôt, le 16 juillet, des sources officielles syriennes ont rapporté que Damas et la milice turque, FTS, sont sur le point de former une salle d'opération conjointe contre d'éventuelles attaques turques, et ce avec la médiation de la Russie. Le premier ministre du gouvernement de salut national yéménite a souligné que le Yémen avait le dernier mot sur le détroit de Bab el-Mandeb pour préserver l'identité arabe de la mer Rouge contre la conspiration américaine. Abdelaziz Ben Abdour, le premier ministre du gouvernement de salut national du Yémen, a souligné le lundi 18 juillet que les ennemis ne s'attendaient pas à ce que le peuple yéménite puisse résister pendant 7 ans et que les institutions gouvernementales restent intactes. Les ennemis pensaient que le Yémen serait une proie facile et qu'ils seraient en mesure de mettre fin à cette guerre en leur faveur, a encore ajouté Ben Abdour. Il a déclaré qu'au cours de la 8e année de cette guerre, le Yémen était devenu plus unifié et plus puissant que jamais. Ben Abdour, évoquant la récente réunion à Jeddah, a précisé que les ennemis ont tenté de faire passer la guerre contre le Yémen pour une guerre civile et de dissimuler la réalité de leur agression brutale. Le Yémen a le dernier mot sur le détroit de Bab el-Mandeb afin de préserver l'identité arabe de la mer Rouge contre le complot américain, a ponctué M. Ben Abdour avant de souligner. Bab el-Mandeb est un point de passage international, mais il fait partie des terres yéménites. Nous ne permettrons pas que la mer Rouge se transforme en un lac israélien. Le président français Emmanuel Macron a rencontré lundi à Paris le président des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, actuellement en visite en France. Les deux dirigeants ont discuté notamment de la coopération dans le secteur de l'énergie. Dans un contexte de la hausse vertigineuse des prix des carburants, la France cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement en énergie. Au cours de la visite du président émirati en France, le géant français Total et la compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis, ADNOC, ont signé lundi un accord de coopération dans le domaine de l'énergie, ont rapporté des médias français. Cet accord permettra de créer un cadre stable de long terme pour la coopération énergétique entre les deux pays, ont indiqué des médias en citant une source du gouvernement français. Les exportations énergétiques des Émirats arabes unis vers la France ont atteint 1,5 milliard d'euros en 2019, dont la plupart sont des produits pétroliers raffinés. Mohamed Ben Zayed Al Nahyan est arrivé à Paris le 17 juillet pour sa première visite d'État à l'étranger depuis sa prise de fonction. L'Azerbaïdjan et l'Union européenne ont signé lundi un nouveau protocole d'accord sur un partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie, partenariat qui doit permettre de doubler l'approvisionnement en gaz de l'Azerbaïdjan vers l'Europe à l'horizon 2027. Signé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, en visite en Azerbaïdjan, cet accord garantit des approvisionnements alternatifs en gaz à l'Europe alors que les parties s'efforcent de travailler collectivement pour assurer une livraison stable et prévisible de gaz naturel à l'Union européenne. S'exprimant à l'issue de la cérémonie de signature, M. Aliyev a salué la coopération énergétique entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne selon un communiqué publié sur le site internet officiel du président azerbaïdjanais. Mme von der Leyen a déclaré qu'avec ce nouveau protocole d'accord, les parties s'engageaient à l'expansion du projet de corridor gazier sud-européen. Dans le cadre de ce protocole d'accord, l'Azerbaïdjan et l'Union européenne souhaitent aussi soutenir le commerce bilatéral de gaz naturel, y compris par le biais d'exportations vers l'Union européenne via le corridor gazier sud-européen d'au moins 20 milliards de mètres cubes par an d'ici 2017, en fonction de la viabilité commerciale de la demande du marché. Cet accord permet également de poser les bases de la collaboration entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne dans les domaines des énergies renouvelables et de fixer les engagements des deux parties dans la réduction des émissions de méthane. Alger et Rome ont signé lundi un total de 15 accords de coopération et mémorandums d'entente, dont un accord portant sur la livraison du gaz naturel algérien au profit de l'Italie. La signature de ces accords intervient dans le cadre de la visite d'une journée effectuée lundi à Alger par le premier ministre italien Mario Draghi. Les deux parties ont signé des mémorandums d'entente dans les domaines de l'artisanat, des industries pharmaceutiques, de l'entrepreneuriat, du développement des investissements, de la prévention et de la lutte contre la corruption, des travaux publics, des start-up, de la coopération industrielle et énergétique, des énergies renouvelables, du développement social et de la solidarité. un accord de coopération dans le domaine de la protection du patrimoine historique et culturel, un protocole de coopération dans le secteur de la justice et une déclaration d'intention dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la coopération diplomatique ont également été parfaits. Le président Tebboune a déclaré aux journalistes qu'un important accord sera signé également mardi avec les compagnies occidentales, Eni et Total, d'un montant de 4 milliards de dollars, qui permettra d'alimenter l'Italie en très grande quantité de gaz naturel. Il a par ailleurs renouvelé l'engagement de son pays à être l'un des fournisseurs d'énergie solaire renouvelable et d'électricité conventionnelle à l'Europe. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Algérie. Pire découverte d'Israël. Selon les médias mainstream, il est prévu que le chef d'état-major israélien Aviv Keravi se rende au Maroc la semaine prochaine dans le cadre de la coopération croissante entre les deux pays ou d'une visite officielle d'un responsable militaire israélien dans le royaume. Les visites de responsables israéliens au Maroc se sont poursuivies depuis la reprise des relations en décembre 2020. Parmi les dirigeants israéliens qui se sont rendus dans le royaume, figuraient le ministre de la guerre, Benny Gantz, en novembre, et la ministre israélienne de l'Intérieur, Ayelet Shaked, en juin. Des partenariats ont été signés entre les deux parties dans les domaines technologiques, sécuritaires, militaires, économiques et culturels. Ceci est le devant du décor. Mais qu'en est-il de l'arrière-décor? Pourquoi Keravi se rend-il précipitamment au Maroc si tout se passe bien, comme le prétend la presse à la solde? En effet, après la retentissante défaite de l'OTAN moyen-orientale, le sioniste semble vouloir chercher au Maghreb une consolation, surtout qu'il est sur le point de départ pour l'ensemble de ses déculottés face à la résistance. Mais a-t-il choisi le bon moment et surtout le bon endroit? Selon des sources maghrébines, Rabat n'a pas été trop à l'aise à répondre oui à l'entité quand celle-ci lui aurait demandé de faire partie d'une coalition anti-résistance à vocation navale, surtout que cette résistance semble, depuis la parade du 60e anniversaire de l'indépendance algérienne, avoir pleinement fait son entrée au Maghreb avec un Hamas assistant littéralement à la cérémonie militaire. Au fait, Israël s'y active ces derniers temps à Dakhla, cette zone ultra-stratégique située à deux pas de Sahara qui a une côte sur l'Atlantique et que convoite l'Amérique pour y installer une base navale, peut-il espérer un jour pouvoir créer une DSA intégrée en Méditerranée occidentale? L'Algérie s'est rapprochée militairement de la Russie, ce qui lui a permis d'acquérir des sous-marins capables de lancer des missiles et des missiles calibre capables d'atteindre Madrid depuis la Méditerranée, ainsi que des missiles Iskander et des avions russes de 5e génération. L'Algérie est le seul pays de la région méditerranéenne en dehors de l'occupation israélienne qui a la capacité de lancer des missiles offensifs à partir d'un sous-marin. En effet, les sous-marins du type Kilo, équipés de missiles de croisière calibre qui peuvent être tirés en immersion, donnent à la marine algérienne la capacité de paralyser ses ennemis. Alors, pour une entité qui s'apprête sous prétexte sanitaire à débarquer à Dakhla, c'est toujours une source d'inquiétude. C'est s'engager sur des sables mouvants.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. alors que la vague anti-française à travers l'Afrique se propage. Emmanuel Macron, le président français, tente de ralentir l'expulsion des troupes françaises de l'Afrique en disant qu'il fallait donc développer les dispositifs moins posés et moins exposés. Une tentative vaine selon beaucoup d'experts politiques. Beaucoup de pays africains comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger ou bien le Congo considèrent que la présence française en Afrique et également les casques bleus comme un complot à leur encontre. Voilà. Alors que la France a affaibli énormément économiquement et militairement ces pays-là, a tenté de piller leurs richesses. Nous allons essayer de répondre à ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Boucler leur départ du Mali d'ici quelques semaines, Paris a engagé des discussions avec des pays du Sahel et du Golfe de Guinée pour préparer de nouvelles formes d'intervention plus discrètes. Le président français Emmanuel Macron a annoncé le mercredi 13 juillet sa volonté de repenser d'ici l'automne des dispositifs militaires de la France en Afrique pour les rendre moins posés et moins exposés, alors que la force Barkhane est en train de se retirer du Mali après la dégradation des relations entre Paris et Bamako. J'ai demandé au ministre et au chef d'état-major des armées de pouvoir repenser d'ici à l'automne l'ensemble de nos dispositifs sur le continent africain. C'est une nécessité stratégique car nous devons avoir des dispositifs moins posés et moins exposés, a-t-il déclaré lors d'un discours prononcé au ministère des armées à la veille de la fête nationale française. Ainsi, la présence militaire française sur le continent africain devrait devenir plus discrète et plus invisible, notamment au Sahel, où les troupes françaises sont appelées à achever leur retrait du Mali d'ici quelques semaines. Une fois leur retrait du Mali achevé, Paris aura divisé par deux sa présence au Sahel en maintenant 2500 militaires dans la région.
Eh bien, voilà pour le reportage. À présent, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par André Chamy, juriste international et expert de questions internationales depuis Alsace. André Chamy, bonjour.
Bonjour. Bonjour à vous et à votre invité, Monsieur Luc Michel.
Voilà justement un bonjour à Monsieur Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à Maître Chamy.
Un débat qui semble prometteur. Donc, ma première question va s'adresser à Maître Chamy. Maître Chamy, quand le président français parle d'une présence plus discrète en Afrique, est-ce que ça veut dire que déjà la France admet sa défaite générale en Afrique ?
Alors, il y a une réalité, ne serait-ce que militaire, et évidemment, qui confirme cet échec militaire, pour ne pas parler de défaite, mais en tout cas cet échec militaire dans la région, parce que cette opération qui se voulait une opération de pacification d'une zone aussi grande que peut-être 10 fois la France n'était pas possible avec quelques centaines ou même quelques milliers d'hommes. Au-delà de cette question-là, il fallait travailler à la racine du problème. Et la racine du problème, évidemment qu'il y ait ici ou là des mouvements que l'on qualifie de terroristes, personne ne le conteste, mais il y a un problème fondamental qui nourrit ce terrorisme ou cet islamisme politique dans la région, c'est, si j'ose dire, la situation politique dans toute la zone. C'est-à-dire qu'il y a un problème de précarité, il y a un problème de pillage économique, il y a un problème par rapport à la présidence de ces... en tout cas au pouvoir installé sur place. Et ces pouvoirs-là étaient au gré du pouvoir politique en France, parce qu'en réalité, ils étaient censés assurer les intérêts de la France, sauf qu'il y a un mouvement d'émancipation dans cette région-là qui pousse les populations à aller vers une libération de leurs moyens, de leurs capacités et de se débarrasser des anciens pouvoirs qui ont fait leur temps et parfois pendant 20 ou 30 ou 40 ans sans donner des effets, si je veux dire, sur la situation économique du pays, sur l'évolution sociale, sur l'éducation, sur si j'ose dire, les éléments nécessaires à cette population-là, c'est-à-dire les nourrir, les rendre plus indépendants, les mettre à l'abri des aléas climatiques. Toutes ces questions-là, évidemment, n'étaient pas résolues, et tant que la domination des anciennes colonies étaient là, dont la France, cela posait indiscutablement problème. Et quand vous envoyez des militaires sur place et il y a un constat d'échec, à ce moment-là, ces pays, et notamment la zone qui concerne cette lutte contre les organisations terroristes montre une insatisfaction de la prestation, si j'ose dire, des forces françaises, parce qu'elles n'arrivent pas à éradiquer ce terrorisme qui règne sur place et qui, au contraire, qui grandit comme une espèce de cancer, parce qu'il se nourrit de cette précarité, il se nourrit de cette insatisfaction du pouvoir. Et puis à ce moment-là, il y a le ralliement de gré ou de force qui se fait. Et à ce moment-là, ça permet même d'étendre le pouvoir de ces organisations, et ce, au détriment, d'une politique beaucoup plus intelligente et, bien entendu, qui a une vocation à améliorer la situation de ce pays-là. Et c'est là que sont intervenus notamment les Russes. Alors, on dit à travers les troupes Wagner, mais en réalité, il y a une volonté de la Russie, de la Chine et d'autres pays d'avoir une présence, mais cette présence tend non seulement à avoir des positions sur place, mais également de permettre à ces pays-là de se nourrir, de s'améliorer, oui, de s'émanciper et d'aller plus loin. Absolument. Dans leur réalisation intérieure. Et bien entendu, cela ne peut se faire qu'au détriment des Français qui ont totalement échoué dans leur mission.
Absolument. Nous allons développer la question de la Russie tout à l'heure. Je vais m'adresser à Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Alors, Luc Michel, la tentative du président français Emmanuel Macron pour ralentir l'expulsion des troupes françaises, selon beaucoup d'experts politiques, est tout à fait vaine. Que pensez-vous?
C'est un combat d'arrière-garde. Au début de cette année est sorti un livre fondamental, il s'appelle « Le déclassement français ». Il explique comment la France est en train de reculer partout dans le monde, au Proche-Orient, au Liban, en Syrie, dans l'océan Pacifique, à côté de l'Australie et du Japon, mais spectaculairement en Afrique. Le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, n'est qu'un prétexte, un moyen d'ingérence. Ce qui est en cause, c'est l'imposture française que représente le néocolonialisme français. Ce néocolonialisme, il est basé sur une imposture qui a été la France-Afrique de De Gaulle. Mais aujourd'hui, à partir des années 2015-2016, les Russes sont revenus en Afrique et ils ont été suivis par leur allié iranien. Ils ont développé une nouvelle forme de guerre qu'on appelle la guerre hybride et qui vise principalement le ventre mou de l'impérialisme occidental qu'est l'impérialisme français. Les Français sont en recul partout et maintenant ils mènent un combat d'arrière-garde pour essayer de se maintenir. La France est prise entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est celui du panafricanisme, celui des centaines de millions de masses panafricaines qui sont opposées à la présence de la France, mais aussi aux chefs d'État panafricains comme Assimi Goïta ou Fossard Change Tandera. Et l'enclume, c'est l'impérialisme américain qui veut dégager les Français du précaré français et américaniser la guerre du Sahel. C'est face à ce double mouvement que la France, évidemment, mène un combat d'arrière-garde. Ces jours-ci, Macron veut se rendre au Cameroun et au Bénin pour tenter d'arrêter le déclin. C'est un combat perdu d'avance.
Mais Luc Michel, ce déclin que vous parlez et la présence française qui soit moins discrète, selon le président français, il a dit qu'il va prendre des dispositifs moins posés et moins exposés en Afrique. Donc c'est une dernière chance pour la France, à votre avis?
C'est trop tard. La France, en fait, elle souffre, comme le dit le terme de la décadence française ou déclassement français, elle souffre d'un manque de moyens. C'est la nouvelle loi de la terre. où Macron a fixé les objectifs de l'armée française pour 2030. Il a été critiqué par l'amiral Koldefi. L'amiral Koldefi, c'est le stratège français, l'ancien commandant du porte-avions Charles de Gaulle. Et dans son livre manifeste qui s'appelle « Amiral », il a fixé la redéfinition de l'impérialisme français comme une grande mission. Et il y a 48 heures, les limites de la France. Les limites de la France, quelles sont-elles? C'est-à-dire que la France n'a plus les moyens de mener une guerre traditionnelle en Europe. Comme dit Cole, elle n'est plus capable de mener une guerre classique. Elle a réduit l'armée française à un corps expéditionnaire, justement, qui est présent en Afrique et qui n'a plus les moyens de sa présence militaire politique. D'imposture, c'est un nain géopolitique qui joue au géant.
Absolument. André Chamy, est-ce que vous partagez l'avis de Luc Michel quand il parle de ce déclin de la France, pas seulement en Afrique, mais aussi ailleurs?
Il y a indiscutablement un déclin de la France, sans vouloir faire du, je dirais, de, une sorte de « c'était mieux avant ». La question qui se pose, c'est quels sont les moyens dont dispose la France face à ce qui se passe comme changement à travers le monde. Quand vous prenez la puissance militaire, elle est réduite à néant, puisque l'ensemble des corps de l'armée française sont en souffrance au niveau des moyens, au niveau des capacités de projection, au niveau bien entendu même de l'effectif et surtout au niveau des formations. Parce que quand on se veut par rapport à l'Europe, bien entendu, comme étant le porte-étendard, certes, mais l'Europe est en général en déclin. Aujourd'hui, il n'y a plus d'armée en Europe. Les deux seules forces qui existaient, c'était l'armée française et l'armée anglaise, mais les deux sont en déclin par manque de moyens, parce qu'il y a eu une sorte de doctrine qui a régné à travers le monde, notamment les mondes qui se voulaient évoluer économiquement, étaient d'abandonner les investissements militaires pour les remplacer par, soi-disant, des mutations politiques. Sauf que les mutations politiques ne se sont pas opérées à travers une nouvelle coopération. Tout le monde a confié ses œufs aux Américains, puisque notamment les Français, à travers l'entrée dans l'OTAN, ont tout simplement détruit tout ce qui pouvait représenter une puissance française, en tout cas une capacité française d'avoir des liens bilatéraux avec un certain nombre de pays, mais également d'avoir une puissance militaire indépendante, non seulement à travers la puissance nucléaire, mais également à travers une puissance classique. À cela, vous rajoutez le changement de logiciel par rapport aux nouvelles guerres. Nous sommes aujourd'hui dans d'autres guerres qui sont annoncées. Les guerres classiques n'existent plus. Nous sommes à l'ère des guerres asymétriques, c'est-à-dire face à des puissances, même notamment les Américains. Aujourd'hui, il y a des capacités de frappe qui peuvent exister dans certains pays. Et vous avez pris l'exemple de l'Iran. C'est un exemple parfait, qui a démontré son efficacité et ses capacités de projection, mais également ses capacités de nuisance, y compris à l'égard ou à l'encontre des plus grandes armées du monde. Et nous avons vu une démonstration dans le Golfe, quand il y a eu quelques, si j'ose dire, affrontements entre l'armée iranienne et l'armée américaine, les Iraniens ont eu, si j'ose dire, le dessus. La France ne s'est pas préparée à la guerre asymétrique. Oui. C'est la raison pour laquelle il y a une grande part, si j'ose dire, de l'échec français en Afrique, parce que les Français ont été trompés, si j'ose dire, soit volontairement, soit involontairement, en disant « regardez voir quand ils ont avancé au Mali », en disant « regardez voir, les terroristes ont été éradiqués », mais en réalité, ils sont cachés, si j'ose dire, derrière les dunes et dans les villages. Mais quand il a fallu reprendre les attaques, ils étaient en mesure, à travers la mobilité, de remener des attaques et de faire subir aux forces françaises des pertes qui peuvent être considérées pour une armée classique comme pertes importantes. Et une armée classique ne peut pas supporter, aujourd'hui les sociétés occidentales ne peuvent pas supporter des guerres d'usure. Ce que sont capables de mener les guérillas urbaines, opérées urbaines, ou même dans les déserts ou dans les conditions climatiques difficiles. Nous sommes donc devant une nouvelle ère à laquelle la France ne s'est pas préparée, et je dirais presque beaucoup d'armées occidentales ne s'y sont pas préparées. C'est la raison pour laquelle, sans moyens, sans préparation, sans formation, sans de véritables alliances et sans de véritables projections politiques à travers des alliances profonde et non pas de domination, c'est-à-dire il y a une véritable coopération et d'implication des puissances locales et régionales, et l'Afrique elle-même particulièrement à travers une implication non pas comme des subsidiaires, c'est-à-dire quand on ne veut pas aller quelque part, on envoie les Africains pour se faire massacrer. Évidemment, les Africains ne sont pas dupes, et c'est la raison pour laquelle il y a très peu de coopération entre les armées africaines et l'armée française. Et aujourd'hui, même les endroits où la France existe, en tout cas maintient des forces, il y a une espèce de retrait. L'autre fois, j'écoutais un commandant des armées dans un pays africain, honnêtement je ne me rappelle plus lequel, il disait, bah, écoutez, nous on a notre distance, c'est-à-dire chacun de nous commande les propres forces, et on n'a pas intérêt à avoir à se mêler à ces forces françaises, parce que si les forces françaises sont attaquées, eux ils ne voulaient pas être attaqués de la même manière, ce qui démontre le manque de confiance, si je veux dire, dans les capacités françaises à riposter, ou en tout cas à se défendre. Et ça pose un problème concernant la présence française dans cette région-là. Et à long terme, je dirais, le retrait pur et simple, à défaut d'avoir mené une véritable politique de coopération et de projection vers l'avenir par rapport à ces populations qui ont vocation à avoir une indépendance réelle, une économie qui s'émancipe et une indépendance politique à travers une coopération inter-africaine. Et cette coopération, à mon avis, sera la meilleure solution pour l'ensemble de l'Afrique, parce que l'Afrique a des capacités, a des compétences, a une civilisation, a même des... Aujourd'hui, à l'ère où l'on parle d'écologie, c'est le poumon du monde, et aujourd'hui, l'Afrique peut constituer, au contraire, un retour aux sources pour qu'un nouveau combat pour une autre écologie soit mené dans cette zone-là, et oui, une nouvelle coopération qui se prépare pour l'avenir dans la région.
Absolument. Luc Michel, bien sûr, Monsieur Maître Chami parle de manque de confiance, etc. Vous avez parlé de le peu de moyens dont dispose la France politiquement et économiquement pour être plus présente en France. Cette vague d'émancipation qui a fait allusion tout à l'heure Maître Chami, mais également l'aide de la Russie et son allié principal, l'Iran, en Afrique. Donc, tout ça donc, ont permis donc, la disparition de la France de l'Afrique. Que pensez-vous?
Écoutez, tout ne se résume pas à un triangle entre la France, le djihadisme ou le terrorisme ou les pays africains. Les Français n'ont pas perçu que sur les ruines de la Jamaïque libyenne, il y a une nouvelle émancipation africaine qui s'est lancée, celle du néo-panafricanisme. Les Africains ne veulent plus des dominations néocoloniales et ils ont été aidés par le retour des Russes et l'arrivée des Iraniens en Afrique. Les Occidentaux se sont laissés prendre dans une impasse stratégique, et les Français en particulier. Il n'y a pas seulement l'incapacité à comprendre la guerre hybride ou la guerre asymétrique. Il y a également l'impossibilité de faire front sur le retour de la guerre classique. On voit aujourd'hui, avec l'opération spéciale russe en Ukraine, le retour en Europe de la guerre classique. C'est à cela, ce constat d'échec, que dresse l'amiral Cole Duffy ces jours-ci. C'est justement que la France n'est plus capable de mener une guerre classique en Europe et est réduite à un corps expéditionnaire colonial en Afrique. C'est tout cela qui explique le déclassement français. Mais le principal phénomène, il n'est pas propre à la France ou à l'Occident, il est propre aux Africains. Ce retour du néo-panafricanisme à la volonté d'émancipation africaine que l'Occident avait cru étouffer en détruisant la Jamaïque du colonel Kadhafi. Voilà ce qu'il faut retenir. Les Français se mènent la guerre avec un logiciel dépassé. Ils se croient encore dans les années 2010-2011, alors que nous sommes en 2022 dans un autre contexte géopolitique. Seuls les Russes et les Iraniens ont compris ce contexte.
Oui, absolument. Maître Chami, bon, vu la situation, parlons de l'avenir un petit peu. L'Afrique n'a plus confiance des Français, ou plutôt le gouvernement français. Alors, vous ne pensez pas que quand le président français parle d'une présence plus discrète, les responsables africains, beaucoup récemment, ont dit que c'est un complot, donc on rejette justement toute présence française en Afrique.
Mais la présence discrète est une présence stupide parce qu'en réalité, en se voulant être discret, en réalité, on se ridiculise tout simplement. Parce que soit vous êtes capable d'assurer une véritable présence militaire avec une force qui s'impose et qui en impose, si j'ose dire, ou bien vous n'en avez pas. Mais transformer des armées en une espèce de force de police ou en tout cas une force de surveillance sans moyens, sans rien, c'est juste stupide. Et évidemment, les Africains n'ont pas d'ailleurs vocation à avoir des forces étrangères sur leur territoire. Si ils ont des intentions de s'émanciper et de développer leurs propres moyens à travers une coopération interafricaine, pourquoi voulez-vous qu'ils aient besoin de la France ou d'autres pays occidentaux? Et aujourd'hui, évidemment, ce vent, si j'ose dire, de liberté souffle davantage. Et nous constatons dans un certain temps de pays que cette volonté existe. Et bien entendu, il y a une espèce de recul, ne serait-ce que par souci de satisfaire sa population, d'avoir une espèce de retrait par rapport aux forces françaises, ou en tout cas par rapport à la politique et à la stratégie française, ce qui démontre aujourd'hui que l'on peut remplacer, si j'ose dire, les Français par d'autres moyens. Et l'exemple du Mali à travers les forces Wagner a été l'exemple parfait, parce que vous remplacez toute une armée à travers une espèce de milice qui arrive à faire le meilleur travail, un meilleur travail que celui qui a été mené par l'armée française, ça interroge, y compris le militaire français, en tout cas par rapport à la décision politique ou aux décisions politiques qui ont été prises au fil des années sur les capacités, sur le moyen et sur la projection et surtout sur la stratégie française en Afrique.
Tout à fait. Pour terminer, je vais m'adresser à M. Luc Michel et après à M. Jamy. Alors, Luc Michel, la France n'est pas prête à laisser tomber toutes ses richesses en Afrique. Elle l'a montré à travers le monde entier. Et que pensez-vous de la jeunesse africaine? Que va faire la jeunesse africaine pour empêcher que des pays tels que la France laissent tomber l'Afrique afin de ne pas piller leurs richesses?
La France n'a pas compris l'évolution du sentiment anti-français. Vous savez qu'une très grande partie de mon parcours se passe en Afrique. Je suis toute la journée sur des plateaux de télévision africains et je fréquente des jeunes africains. Le sentiment anti-français, anti-France-Afrique, il est devenu véritablement parmi la jeune génération une haine de la France et des Français. C'est malheureux à constater, mais c'est cela. Je constate parmi les jeunes Africains la haine de la France. La France ne rattrapera pas ce sentiment. C'est particulièrement vrai au Cameroun ou au Mali, par exemple. C'est là-bas que ces sentiments sont particulièrement forts. C'est dans le précaré français que ce sentiment anticolonialiste est le plus fort, évidemment. La France n'a pas pris la mesure de la montée de ce sentiment qui était perceptible dès les années 2015. On est passé dans un rejet géopolitique de la France pour des motifs géopolitiques. On est placé véritablement à un rejet qui est un rejet purement humain. C'est cela que les Français n'ont pas compris et c'est très inquiétant pour l'avenir de la présence française en Afrique. Je ne parle pas de la présence militaire, je parle de la présence économique et humaine qui est très importante dans l'ancien précaré français.
Absolument. Merci, M. Luc Michel. M. André Chamy, un dernier mot pour terminer.
Moi, je ne peux que acquiescer, si j'ose dire, sur ce qu'a dit M. Michel, parce que, je ne dirais pas le mot haine, mais en tout cas de cause, il y a une méfiance incontestable et certaine à l'égard de la France, à l'égard de la société française. Aujourd'hui même, l'autre fois, il y a une femme politique italienne qui a critiqué de manière assez brutale la politique de la France, notamment par rapport à l'emploi des enfants, par rapport au pillage des richesses, par rapport à la domination française qui a duré maintenant des décennies, presque un siècle, sur toutes les décisions économiques, politiques, sociales en Afrique. Aujourd'hui, bien entendu, les Africains en ont assez et ont raison d'ailleurs de vouloir se débarrasser de cette influence, pour ne pas dire de cette domination française, parce que vous ne pouvez pas revendiquer votre liberté et en même temps accepter que votre occupant qui a utilisé un autre visage ou d'autres masques, continuez de piller vos richesses et continuez de dominer vos décisions politiques et économiques. C'est juste pas possible. Et les Africains ont le droit de le faire, ont le devoir de le faire, et aujourd'hui, ils le font.
Surtout la jeunesse africaine. Maître Chami, André Chami, juriste international, merci infiniment d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Merci à Luc Michel, géopoliticien, qui est avec nous depuis Bruxelles. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui a resté inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Des physiciens de renom iranien est Ibn Hissam. Il était originaire de Bassora, qui était sous le règne de la dynastie iranienne Alebouye et était considéré comme faisant partie de l'Iran à l'époque. De nombreux chercheurs pensent qu'Ibn Hissam a été le premier scientifique au monde à mesurer la vitesse du son. Il a réussi à faire ce grand travail en utilisant les unités de longueur conventionnelles de son temps. L'unité de mesure de longueur à son époque était coudée avec laquelle il a mesuré la vitesse de la lumière et la circonférence de la Terre. Abu Ali Muhammad ibn Hassan ibn Hissam Basri, qui s'appelait Ibn Hissam en abrégé, est considéré comme l'un des scientifiques les plus éminents du monde musulman. Ibn Hissam est né en 965 après Jésus-Christ et mort en 1039 après Jésus-Christ. Certes, il est connu sous le nom d'Alazen dans les livres latins. Les ancêtres d'Ibn Hissam étaient de la ville universitaire de Junjishapur à l'époque sassanite. Ils étaient des maîtres et des professeurs compétents en sciences mathématiques, arithmétique, géométrie, trigonométrie et algèbre. L'Égyptien Mustafa Nazif Bey, qui a passé en revue les questions évoquées dans le traité d'optique d'Ibn Hissam, a écrit un livre complet à ce sujet en 2 volumes, considère ce grand physicien musulman comme le leader des scientifiques du monde à utiliser la méthodologie d'expérimentation et les essais contrôlés dans ses investigations scientifiques. Une étude approfondie des travaux d'Ibn Hissam et bien sûr d'un autre grand scientifique de son temps, Abu Rayhan Biruni, montre qu'au début de l'âge d'or de la science dans la civilisation islamique, l'induction et l'expérience avaient une place particulière chez les scientifiques iraniens, deux éléments importants grâce auxquels on est témoin d'une grande révolution dans les recherches philosophiques et naturelles. Avec ses recherches fondamentales dans ce domaine, Ibn Hissam est pris comme le fondateur d'une nouvelle méthode pratique ou ce que l'on appelle la méthode scientifique. L'utilisation de la méthode scientifique est le fondement de grands acquis dans la société humaine dans les domaines scientifiques. Si Roger Bacon est connu comme le père de la méthode scientifique et que certaines innovations dans le domaine de l'optique lui sont attribuées, le fait et qu'il a été influencé par les découvertes d'Ibn Hissam qui ont également été transférées en Occident. Bien qu'Ibn Hissam ait largement utilisé les opinions des prédécesseurs tels que Ptolémée Euclide pour expliquer ses opinions, on peut clairement dire que cette théorie de la science de la lumière n'était pas directement adaptée des opinions des prédécesseurs. Il est un grand chercheur et critique qui a cherché à corriger les opinions des scientifiques grecs, ce qui est bien entendu reflété dans son traité d'optique. Ibn Hisham est le père de l'optique et l'initiateur des développements qui ont conduit plus tard à la construction d'appareils photographiques, de caméras argentiques et de projecteurs cinématographiques. Ce physicien était également l'inventeur de la loupe. Il a par ailleurs découvert le rapport entre l'angle d'incidence et l'angle de réfraction, a expliqué le principe de la chambre noire, a fait des études sur de différentes parties de l'œil. Plus de 20 livres de ce physicien musulman portent exclusivement sur la science de l'astronomie, mais il est plus célèbre pour avoir rédigé un ouvrage intitulé « Sur la configuration du monde ». Ce livre est le seul ouvrage astronomique d'Ibn Hisham traduit en occident. De même, il a été traduit en espagnol sur ordre d'Alphonse X, roi de Castille au XIIIe siècle après Jésus-Christ. La version espagnole a été également traduite en latin par un traducteur inconnu sous le titre du livre « Du monde et du ciel ». Selon Ibn Hisham, si la Lune se comporte comme un miroir, il faut que la surface de la Lune, qui réfléchit la lumière du Soleil vers la Terre, soit plus petite que la surface que nous voyons. On en conclut donc que la Lune émet sa lumière transversale comme des objets lumineux, c'est-à-dire de toute sa surface et dans toutes les directions. Son opinion a bien sûr été approuvée quelques siècles plus tard grâce à des outils modernes créés dans le domaine de l'astronomie. Ibn Hisham est le premier scientifique au monde à avoir mesuré la vitesse du son. Il a calculé la vitesse de la lumière et mesuré la circonférence de la Terre avec les étalons standards de son temps, à savoir la coudée. Une autre caractéristique d'Ibn Hisham est qu'il a réussi à rechercher, à étudier les propriétés de la lumière 700 avant Newton. L'explication des principes de la chambre noire et l'invention de la loupe font partie de ces œuvres marquantes qui ont finalement abouti à la construction de l'appareil photo. Il a utilisé un appareil appelé chambre noire pour étudier les éclipses solaires. Cet outil a transféré en Europe pendant les croisades. La chambre noire était une boîte qui n'avait qu'une petite ouverture sur l'une de ses surfaces. Le passage de la lumière à travers cette ouverture a provoqué la formation d'une image relativement claire, mais à l'envers sous la surface opposée. Cet appareil a beaucoup attiré l'attention des peintres, en particulier les peintres italiens du XVIe siècle, qui l'ont utilisé pour dessiner avec précision des paysages. Ibn Hisham fabriquait lui-même les outils qu'il utilisait. Il a construit une meule de lentilles et l'a utilisé pour meuler et tester les lentilles et décrire et justifier les résultats du test. Ibn Hisham est le premier scientifique qui a utilisé le concept de faisceau lumineux. Il explique pour la première fois dans l'histoire des sciences. Si nous voyons, c'est parce que les objets qui nous entourent nous envoient dans les yeux une partie de la lumière qu'ils reçoivent. Ibn Hisham décrit l'œil humain comme suit. L'œil humain a une forme presque sphérique qui est entourée d'une membrane épaisse et dure appelée la sclère, et le nerf optique l'atteint par arrière, et la surface avant l'œil est couverte par un revêtement convexe appelé la cornée qui agit comme une partie antérieure de la sclère. En arrière de la cornée se trouve l'iris, dont la couleur est différente selon les personnes. Au milieu de l'iris, il y a un trou rond appelé pupille de diamètre variable et derrière l'iris se trouve une lentille à face convexe appelée cristallin, dont la surface arrière est plus convexe que la surface antérieure et il est relié aux muscles du côté qui peuvent être étendus et contractés. Dans la lumière, il y a une propriété qui affecte l'œil, et dans l'œil, il y a une propriété qui est affectée par la lumière. Par conséquent, la seule façon d'expliquer la vision est que la lumière des objets atteigne les yeux. Le problème qu'Ibn Hissam jugeait nécessaire de résoudre était de déterminer quelles conditions sont nécessaires pour que la face d'un objet soit transmise à l'œil d'une manière intacte et complète, et y laisse son impact visuel. Pour résoudre ce problème, il a supposé que la première sensation de vision se produisait dans le cristallin. Ibn Hissam décrit la vision comme faisant intervenir deux instances différentes. L'œil n'a qu'un rôle de récepteur de la lumière et de la couleur et traité comme un instrument optique dont il fait une anatomie complète, descriptive et fonctionnelle. Il attribue au cristallin la capacité de renseigner sur l'intensité lumineuse et le voit comme une lentille réfringente biconvexe. Il accepte l'opinion généralement admise à son époque que l'humeur cristalline est le siège principal de la sensation visuelle. L'unité de la vision binoculaire est assurée par un mouvement de convergence conjoint des deux yeux sur le point de fixation. Ibn Hissam fait une étude détaillée des conditions de fusion des images binoculaires au moyen d'une tablette expérimentale. L'œil perçoit donc la taille, la forme, la transparence, la position et le mouvement, mais la distinction cognitive se fait au niveau du cerveau. Parmi les ouvrages d'Ibn Hissam figurent 20 articles sur l'astronomie. La plupart de ces ouvrages sont de brefs traités qui abordent des sujets théoriques et pratiques tels que les quadrants solaires, la direction de Qibla, la parallaxe et la hauteur des étoiles.
Thank you.